dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
On n'a plus les moyens d'échapper à la connexion générale. Parce que, ça devient... Ah bah écoutez, si vous n'avez pas le smartphone pour payer votre ticket de tram ou votre ticket de bus, ça ne marche pas. Vous ne prenez pas le bus ou ainsi de suite.
Tant que les gens ne diront pas « il faut vivre contre son temps », tant que ça ne reviendra pas spontanément, ils perdront. Et on perd avec.
On perd du pouvoir parce qu'on perd de l'autonomie, mais aussi parce qu'on accepte, bon an mal an, d'adopter ces nouveaux modes de vie.
Depuis une vingtaine d'années, les membres du collectif Pièces et Main d'œuvre combattent le transhumanisme. Mais c'est quoi le transhumanisme ? De l'avis même de ses partisans, c'est la création d'un futur avec des gens implantés, hybridés, pour que ceux-ci dominent le monde. Ce sera le monde des êtres supérieurs et les autres, les récalcitrants, les opposants, ce seront les êtres inférieurs. Un autre des leurs, un cybernéticien, Kevin Warwick, a déclaré « Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. » Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. Dissonance, aujourd'hui, est ravie de donner la parole à deux chimpanzés du futur, membres du collectif Pièces et Mains d'œuvre, un collectif de résistants qui alerte sur le danger totalitaire du transhumanisme et appelle à ouvrir les yeux, à anticiper, à contester, à être offensif plutôt que défensif et à refuser de s'automachiner. Dissonance avec le collectif Pièces et Mains d'œuvre. En 2014, Pièces et Mains d'œuvre diffusait un manifeste, le manifeste des chimpanzés du futur, dont voici des extraits.
Pour les transhumanistes et les collabos de la machine, l'humain est l'erreur. L'humain est faible et faillible, l'humain est fini. L'humain leur fait honte. Ils aspirent à la perfection, au fonctionnement infaillible et à l'infinité du système technologique, à se fondre dans cette totalité autonome.
Cependant, nous, les chimpanzés du futur, nous n'avons pas perdu et la machine n'a pas gagné.
L'humain reste une bataille en cours tant qu'il ne s'abandonne pas. Et il ne s'abandonne pas tant qu'il pense les choses et les dit avec des mots.
Nommer une chose, c'est former une idée, et les idées ont des conséquences inévitables.
Les transhumanistes n'ont qu'une idée, la technologie. Nous, les chimpanzés du futur, n'avons qu'une technologie, les idées.
Cependant, les idées sont plus actives, plus rapides, plus performantes que n'importe quelle technologie, plus véloces et puissantes qu'Internet et l'électricité. Nous disons...
Le transhumanisme est un nazisme en milieu scientifique. C'est ce technototalitarisme, ce fascisme de notre temps que nous combattons, nous, animaux politiques, et nous vous appelons à l'aide. Contre la fabrique industrielle de l'homme nouveau, nous sommes les derniers hommes qui ne s'automachineront pas.
Sauvons les mots.
Brisons les machines.
Grenoble, le 5 novembre 2014. Dissonance avec le collectif Pièces et Mains d'œuvre.
Bonjour Pièces et Mains d'œuvre. Vous avez terminé votre appel aux chimpanzés du futur en parlant d'hommes nouveaux, etc. Et vous affirmez « Nous sommes les derniers hommes qui ne s'automachineront pas ». Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par d'abord peut-être les derniers hommes ? Qu'est-ce que c'est pour vous les derniers hommes ?
D'abord, on n'a pas parlé d'hommes nouveaux, etc. On a parlé de l'espèce nouvelle des surhommes, des hommes augmentés. Hommes augmentés, ça traduit l'américain « enhance man ». « Enhance », ça veut dire « rehausser ». donc en bon français, des surhommes. Hein. Ce qui nous est promis, c'est des surhommes technologiques, en quelque sorte. Bon. Ta question, c'était c'est quoi les derniers hommes ?
C'est quoi les derniers hommes ?
On va commencer par parler de ce que sont les premiers hommes. D'après Engels et Marx, donc d'après des matérialistes, des penseurs matérialistes, on va laisser de côté les idéalistes et la création. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. D'après les matérialistes, l'homme se fait par le travail. Les singes, les hominidés, deviennent des hommes par le travail en commun, par le travail productif. À force de travailler ensemble, de produire les éléments de leur vie en commun et de le faire en commun, eh bien, ils s'hominisent. Et ça produit le langage, etc. Et c'est comme ça que naissent les hommes, d'après Marx, Engels, Darwin et beaucoup de monde. Donc, en fait, la doxa, l'orthodoxie, l'opinion reçue. Ce qui revient à dire que les hommes, en fait, sont des sursinges, des super-singes. Bon, ça, jusqu'à présent, ça n'a jamais choqué personne que les évêques du 19e siècle. Et encore, je crois qu'on a beaucoup exagéré là-dessus, mais mettons. Bon. Donc, de la même façon, Marx, Engels et beaucoup de leurs disciples, de droite, de gauche, ou d'autres matérialistes qui ne sont pas forcément marxistes, disent « Eh ben, ce travail continue grâce à la connaissance scientifique, grâce à l'avancée des connaissances, grâce à l'avancée de la science. Nous continuons, notre espèce continue à travailler sur elle-même. Et donc, de même que du singe, on est passé à l'homme, on va passer de l'homme au surhomme. » Henri Lefebvre dit le cybernanthrope, hein, l'homme cyber-pilotage, anthropos, l'homme augmenté, l'homme, etc. Les derniers hommes, ce sont, en toute logique, ceux qui ne veulent pas être machinés ou s'auto-machinés, ceux qui ne veulent pas se hisser à un niveau supérieur ou qui ne pourront pas se hisser à un niveau supérieur, soit par la voie des implants technologiques, soit par la voie des modifications génétiques, qui refuseront cette promotion. Pourquoi le refuseront-ils ? Ça, c'est une autre histoire.
J'ajouterais aussi que dans la notion de derniers hommes, nous, on se réfère aussi à la définition d'Aristote qui dit que l'homme est un animal politique, un animal social, c'est-à-dire d'abord un animal. Et qu'est-ce que c'est qu'un animal ? C'est un être qui naît, qui vit et qui meurt. Hein, c'est la définition, enfin, biologiquement, en tout cas, c'est comme ça. Après, on l'a dit, l'homme devient homme en se socialisant. Et les derniers hommes sont les hommes qui continuent à naître, c'est-à-dire à arriver par les moyens naturels de la reproduction. Et on voit qu'il y a un mouvement en ce moment qui tend, au contraire, à fabriquer des individus par le moyen de la reproduction artificielle, soit que l'épidémie de stérilité contraigne de plus en plus de couples à avoir recours à ces méthodes parce que ils ne peuvent plus procréer naturellement à cause de l'empoisonnement chimique généralisé, soit que par volonté, on décide d'avoir recours à ces techniques, d'abord pour pouvoir avoir des enfants en étant, par exemple, des couples de même sexe ou des femmes seules ou des individus seuls, c'est-à-dire ne plus avoir recours à... à la reproduction sexuée qui demande gamète mâle, gamète femelle, et qui permet en outre de plus en plus de choisir l'individu à naître, de choisir sur des critères physiques et puis de plus en plus des critères même intellectuels et autres avec les avancées de la génétique et les avancées du marché aussi, puisque de plus en plus se créent des entreprises qui permettent de choisir des bébés à la carte, sur mesure. Donc les derniers hommes sont aussi ceux qui décident de s'en remettre au hasard pour faire naître les générations suivantes. Ce sont ceux qui s'inscrivent dans cette histoire naturelle de la génération. Hein, et c'est important aussi.
C'est les attardés, finalement, les attardés de l'histoire naturelle. C'est ceux qui sont encore dans l'histoire naturelle.
Dissonance avec le collectif Pièces et main-d'œuvre.
tu en as un petit peu parlé, de l'automachination. Donc, vous proposez qu'on ne s'automachine pas, c'est-à-dire qu'on procède comment, en fait?
Bon, qu'est-ce qu'on entend par automachination? C'est le projet des transhumanistes de prendre en main la suite de l'histoire naturelle, justement, de mettre la main, comme ils disent, sur le ressort même de l'évolution, c'est-à-dire de plus laisser advenir des individus, comme je le disais, de manière hasardeuse, par les lois naturelles de l'évolution, avec une transformation qui s'opère, mais sur des très très longues périodes, et au contraire, de décider de qu'est-ce qui va nous suivre, quoi. Quelle va être la suite de l'espèce. Et comment? Par les moyens de la science et de la technologie. Et l'automachination, c'est le fait de se transformer soi-même ou de transformer, selon les critères qui nous font plaisir, nos successeurs, bon, nos enfants, on peut dire ça. Et il y a deux grandes voies d'automachination, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a soit la voie génétique, qui est le fait de modifier, d'intervenir sur le génome, et on sait de mieux en mieux le faire pour obtenir les résultats qu'on escompte, soit de s'hybrider avec la machine, c'est-à-dire par le biais de tous les implants neuroélectroniques, par exemple, sur le cerveau, des implants électroniques pour le corps, et puis des prothèses et des organes artificiels, avec l'idée que ces artefacts avec lesquels on va s'hybrider vont nous donner des nouvelles fonctions, des nouvelles qualités. La vision nocturne, la force physique, la mémoire augmentée, des capacités surnaturelles.
En fait, c'est l'idée d'acquérir ce que dans les contes pour enfants et dans les mythologies primitives, on appelle des pouvoirs, des pouvoirs ou des super-pouvoirs, des pouvoirs qui n'existent pas à l'état naturel, mais qui sont réputés exister à l'état surnaturel. Les dieux, les esprits, les djinns, etc. ont des super-pouvoirs. Bon. Et donc, comment les hommes pourraient acquérir ces super-pouvoirs? Soit ils se mettent bien avec les esprits, ou avec les dieux, ou avec les forces surnaturelles, et à force de prières, de rites, de sacrifices, ils arrivent à avoir des super-pouvoirs. Soit ils acquièrent ces super-pouvoirs par leurs propres moyens. Et c'est là que cette notion de machine est importante. Ça vient du mot grec « mécané ». C'est à la fois machine et moyen. C'est un stratagème, c'est un truc. C'est ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Alors, si ton objectif, c'est d'avoir des pouvoirs, quel est le moyen d'avoir ces pouvoirs? Bon, soit des moyens surnaturels, si tu es bien avec les esprits et avec les dieux, bon, à toi de faire ta cour, soit en comptant sur tes propres forces et grâce à ton ingenium, à ton génie, en étant capable de fabriquer les machines, les mécanés, qui vont servir d'intermédiaire entre ta volonté et ton but. Bon, si ta volonté, c'est la volonté de puissance, la volonté d'avoir des pouvoirs, en fait, la volonté de pouvoir agir sur le monde, de pouvoir agir sur le milieu et de le transformer en vue de tes objectifs ou sur ton entourage proche, bon, il te faut des mécanés. Et ces mécanés te servent, soit la machination te sert à intervenir sur le monde extérieur, et l'automachination te permet d'intervenir sur ta nature propre, ta nature intérieure. C'est une machination qui te permet de te transformer toi-même. La machination, c'est pas seulement la machination des individus, il faut aller au-delà. C'est la machination de la société entière, la machination du monde. En fait, c'est l'homme-machine incarcéré dans le monde-machine. Hein? Et c'est le passage. L'animal politique, il n'était ni un insecte social, hein, ce n'était pas une termite. L'animal politique, le zoonpolitikon, l'homme, l'humain, ce n'était ni un insecte social, donc ce n'était pas une termite, ce n'était pas une fourmi, ce n'était pas une guêpe, ce n'était pas une abeille, bon, etc., ni un homme-machine, ce n'était pas un cybernanthrope. Bon. Eux, quand ils incarcèrent l'homme-machine dans le monde-machine, quand ils font de l'homme-machine une pièce du monde-machine, ils abolissent l'individu humain. On était des animaux sociaux, mais on était des individus politiques. Enfin, c'est synonyme. Bon. Là, l'individu est supprimé. L'individu devient la ruche, ou devient le monde-machine, ou la cité-machine. C'est la smart city. Donc, on a un encastrement de machines successives mais toute intégrée. C'est l'homme-machine dans son habitat-machine, hein, le smart home, la domotique dans ta maison-machine, bon, qui elle-même est partie intégrante de la cité-machine, de la smart city, qui elle-même est partie prenante du monde-machine. Bon, et qu'est-ce qui intègre tout ça, finalement ? C'est la cybernétique, c'est les réseaux électroniques, bon, les réseaux électriques d'abord, réseaux électroniques, Internet, l'intelligence artificielle, enfin, qui est en fait du calcul artificiel, les algorithmes, bon, et ainsi de suite, qui intègre tous ces aspects et qui fait que nous devenons tous des rouages de la machine.
En même temps, avec le transhumanisme, il y a l'idée aussi que chacun peut se façonner selon son désir, peut se transformer selon son désir. Et finalement, il y a l'idée qu'on abolit l'humaine condition, la condition commune, où on est tous soumis à peu près aux mêmes contraintes. Hein, on naît, on meurt, bon, et puis on est à peu près tous fabriqués de la même façon. Mais si on commence à dire, ben, moi, je préfère avoir en option la vision nocturne, ou moi, je préfère avoir en option 30 points de QI, et ainsi de suite, ça devient compliqué de se reconnaître les uns les autres comme appartenant à la même espèce. Sans compter qu'il y a aussi cette idée qu'il y a ceux qui pourront et voudront s'augmenter, et puis ceux qui pourront pas et voudront pas, et qui petit à petit vont se séparer. C'est comme s'il y avait une lutte d'espèces qui se met en place. Donc à la fois, il y a la contrainte macro avec la cybernétique qui nous fait nous intégrer de plus en plus à un système d'où il est difficile de s'échapper, et en même temps, à l'intérieur de cette contrainte-là, de ce système-là, on devient des atomes. C'est l'atomisation aussi du choix individuel qui devrait primer. Et quand des chercheurs commencent à travailler sur la modification génétique des humains, bon, là, je pense au biologiste chinois qui a fait naître deux enfants génétiquement modifiés récemment. Il modifie le génome humain sur des individus qui potentiellement sont capables de transmettre cette modification à leurs descendants, c'est-à-dire qu'il crée une nouvelle lignée d'humains. Donc là, ça y est, il commence à séparer. C'est-à-dire qu'on peut créer des nouvelles lignées. Là, en l'occurrence, il dit qu'il les a modifiées pour les rendre résistantes au virus du sida, comme on fait des plantes résistantes aux insecticides, par exemple. Apparemment, c'est plus compliqué. Il a essayé d'en faire des cerveaux augmentés. Hein. On verra ce que ça donne dans l'avenir. Mais en fait, ça y est, il crée une espèce, une lignée, en tout cas, nouvelle à l'intérieur de l'espèce.
Oui, mais cette contradiction, elle se résout. Mmh. Parce que on a connu ça dans le passé de l'humanité. Donc, il y avait une floraison d'espèces humaines. Mais la concurrence conduit au monopole. Et donc, c'est le modèle le plus performant qui s'est imposé. Homo sapiens sapiens. Bon. Et donc là, c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire que la main invisible du marché, ou la main invisible de la course à la puissance, va sélectionner. Bon, dans un premier temps, il y aura tous les rétifs comme nous qui vont disparaître. Bon, ben, ciao, vous ne voulez pas vous augmenter, salut. Hein, on vous déterrera dans quelques millénaires pour examiner vos os et vos molaires. La floraison primitive qui va suivre cette capacité de fabriquer des individus de façon artificielle va vite être réprimée par la nécessité de s'imposer dans la vie sociale, sur le marché du travail et dans la compétition pour l'existence. Bon, et il y aura évidemment des modèles qui auront un avantage compétitif. Et donc, de même que en mode, le mimétisme fait que, ah oui, chacun peut s'habiller comme il veut, etc. Mais très rapidement, tu ne sais pas pourquoi, tout le monde porte la même chaussure ou le même vêtement ou se fait la même coupe de cheveux ou telle saison, il est sexy de faire ça et puis telle autre, c'est devenu ringard, etc. Très rapidement, on verra s'imposer des types d'hommes-machines plus performants que les autres qui vont installer une norme supérieure qui sera désirable. Et cette norme supérieure désirable va drainer les volontés de se modifier et éliminer les normes qui seront inadéquates dans l'existence sociale ou dans la course au succès. Donc, il y a une escroquerie parce qu'on nous dit ce sera l'humain en kit, vous pourrez vous fabriquer vous-même, vous pourrez fabriquer vos enfants comme vous voudrez, si vous voulez qu'il ait les yeux bleus, il aura les yeux bleus, si ceci, bon, etc., etc. Mais dans la réalité, il y aura un certain type d'homme-machine souhaitable afin de bien de s'ajuster de façon optimale au monde machine. Et qu'est-ce que c'est qu'un type qui est optimal dans le monde machine ? C'est le type qui contribue au renforcement et à l'optimisation du monde machine.
Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver. Comme la rivière coule la mémoire des pères, de nos pères, des vieilles histoires qu'on chantait naguère au coin du feu le soir. Au fond des clairières brûle la mémoire des mères, de nos mères, des belles sorcières qui chantaient le soir sous la clarté lunaire. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver.
Dissonance avec le collectif Pièces et main-d'œuvre.
Pièces et main-d'œuvre, où va se trouver en fait le lieu de confrontation des deux? Vous imaginez des personnes quelque part sur une île qui vont être donc à l'origine de la domination de ce monde-là et qui sera capable donc de verser les herbicides pour les mauvais humains. Au quotidien, c'est quelque chose qui est envisageable?
Ça existe déjà. On va quand même faire un petit rappel historique. Bon, si vous prenez un Européen, mettons entre 1789 et 1815, en 1815, il commence à être un vieux monsieur ou une vieille dame, et vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé de votre temps? Qu'est-ce qu'il y a eu d'important de votre temps? On va vous dire, il y a eu la Révolution française, ça met un sacré bordel, et puis après, il y a eu les guerres napoléoniennes, et puis après, il y a eu la Restauration, et puis après, il y a encore... Bon, etc., etc. Et en fait, non. Ça, c'est l'actualité, c'est pas important. Ça, c'est l'écume des jours, c'est l'écume de l'histoire. Ça fait la une du monde, éventuellement. France Info en parle toute la journée. Mais c'est rien. Ce qui s'est passé entre 1789 et 1815, c'est ce qu'on a appelé plus tard la Révolution industrielle. Et c'est Chaptal, un ministre de Napoléon et un chimiste, qui a appelé ça la Révolution industrielle, par analogie avec la Révolution de 1789. Et c'est ça qui a compté dans l'avenir du monde et jusqu'à nos jours. Ce n'est pas les guerres napoléoniennes, ce n'est pas la Révolution française, ce n'est pas la Restauration. C'est ça le mouvement réel de la puissance. Bon, maintenant, si vous me demandez, ou si je vous demande, qu'est-ce qui s'est passé d'important entre 1989 et 2015 ? Vous allez me dire, la chute du mur, la guerre en Irak, le World Trade Center, enfin, etc., etc. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est Internet, le téléphone portable, le smartphone, le décryptage du géome, les OGM, etc., etc. C'est ça qui est important et qui détermine les deux prochains siècles. Donc, les gens importants, et là, je suis d'accord avec Saint-Simon, ce n'est pas les puissants du jour. Ce n'est pas les ministres, les présidents, les rois, les guerriers, etc. Ce n'est pas eux, les gens importants. Les gens importants, c'est les gens qui introduisent ces bouleversements sociaux, économiques et quasiment anthropologiques. Bon, ces gens, moi, je les appelle les technocrates. Je les appelle les technocrates. Saint-Simon les appelle les industriels. Et ça recouvre des catégories qui sont les scientifiques, les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, les entrepreneurs, les financiers. Et tous ces gens-là travaillent à l'acquisition des moyens de la puissance. Et en fait, travaillant à l'acquisition des moyens de la puissance et y travaillant de façon rationnelle, posée et efficace, ils sont eux les maîtres de la puissance. Ils sont eux les maîtres des moyens de la puissance du jour. Et ils ne sont pas du tout, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, moi c'est là que je me sépare d'un certain nombre d'analyses, les moyens de la puissance, les machines, les entreprises, etc., ne sont pas du tout au service du capital, ne sont pas du tout au service de l'État, même si le capital se rémunère grassement sur l'innovation, même si l'État se sert amplement des outils d'innovation pour domestiquer les peuples, etc., c'est l'inverse. les technocrates, la puissance, asservie le capital et l'État à l'acquisition de nouveaux moyens de puissance, à l'accroissement des moyens de la puissance. Bon. Ces gens-là, ils vivent déjà à part. Ils ont déjà fait sécession. Ils ne vivent pas avec nous. On ne les croise pas dans la vie réelle. Ils sont dans un autre monde. Ils nous communiquent leur volonté par la télévision, par les médias, par Internet. On les voit de loin. Ils ont des héros qui sont chargés de nous parler, qui viennent, qui passent un coup de trompe et qui disent « Oyez, oyez, moi, le chargé de communication de la maison machin, je vous avise. » Bon, oui, ils ont... pour le gouvernement, il y a des porte-parole officielles. Bon, c'est pas des gens qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Ici, on pouvait rencontrer encore le Seigneur, on pouvait aller le voir au château, toc toc, on pouvait donner l'assaut au château. Où sont-ils ces gens? Où habitent-ils? Comment vivent-ils? Moi, je les croise pas dans ma vie. On n'a pas la même vie. Ils ont déjà fait sécession. Bon, donc en fait, la sécession dans un premier temps continue. Ils sont dans des endroits inatteignables et de ces endroits inatteignables. Ces maîtres des machines, ces pilotes des machines, dirigent en fait l'orientation de nos existences. Ce n'est pas forcément au jour le jour, ce n'est pas à l'heure près, mais en gros, ils créent les conditions de vie dans lesquelles nous existons, de plus en plus, puisque de plus en plus, nous ne vivons plus dans un monde naturel, mais dans un monde hors sol. Et ce monde hors sol, ce monde artificiel, c'est le monde qu'ils ont créé, et dans lequel ils nous ont rendus captifs. Nous sommes donc leurs captifs. Nous sommes captifs des réseaux électriques, des réseaux de communication, des réseaux de transport, des réseaux de production et de distribution qu'ils dirigent de loin. C'est du téléguidage. Hein. Donc, il va se poursuivre la même chose, mais de façon de plus en plus nette et de plus amplifiée. Et en fait, il y a des zones entières de la planète dont ils ne se soucient plus. Qu'ils abandonnent, qu'ils sous-traitent à la gestion des narcotrafiquants, des guérillas islamistes, ou autres. Bon, il y a des zones entières de la planète qui retournent à l'état pré-colonial, pré-impérialiste. Bon, des zones grises. Plus personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. Bon, il y a plus en plus d'endroits où on ne peut plus voyager. À moins d'être fortement armé et en nombre. Bon. Donc, ils s'épargnent des frais de gestion. Ils s'en foutent. Bon, ça ne les intéresse pas. C'est une sous-humanité qui ne les intéresse déjà plus. Bon. Et il est bien possible que ces zones grises s'étendent de plus en plus. Alors, est-ce que ça va atteindre l'Europe? Quelle partie de l'Europe? Quelle partie des États-Unis? J'en sais rien. Bon. Eux, ils ont une partie de la planète... ils ont des parties de la planète qui leur sont réservées, à peu près. Bon. Et oui, d'où ils nous administrent. Donc c'est ça qui va continuer. Et alors, après, ce que nous allons devenir, ça dépend de l'état et de la vitesse de la dégradation du milieu, la dégradation écologique du milieu. Il y a un effondrement écologique et un effondrement social qui est concomitant. Ils peuvent abandonner ça et dire qu'ils se débrouillent. Qui se débrouillent. Cette zone dévastée, ces immenses terrains vagues qui font des millions de kilomètres carrés et qu'on a dévastés, ces dépotoirs, qui se débrouillent dans les dépotoirs, hein, et puis que les meilleurs vivent.
En fait, ce qui est notable, c'est qu'il n'y a pratiquement jamais besoin de voter des lois pour nous imposer. Personne n'a voté de loi pour nous imposer d'avoir un téléphone portable, Internet. Ça passe plus par le canal politique traditionnel qui éventuellement pourrait entrer dans un jeu démocratique. On pourrait discuter, on pourrait délibérer. Là, il est admis que il y a une naturalisation du progrès. On a admis cette idée que, au fond, ça advenait de façon presque naturelle. On n'arrête pas le progrès, c'est cette expression qu'on entend tout le temps. Et donc, en plus, ils n'ont pas grand-chose à faire, en somme, pour nous faire vivre dans ce monde qu'ils conçoivent pour nous. C'est-à-dire que ça devient presque plus possible de vivre en dehors de ce monde-là. Et si on le fait, on est mal vu, y compris par nos congénères qui sont eux-mêmes dominés par ça. Il y a une forme d'adhésion aussi à ce monde-là. Bon, une adhésion qu'il faudrait discuter. Il y a toujours une part de fans qui sont prêts à se lever à 2h du matin pour faire la queue devant Apple pour avoir le dernier modèle. Mais la grande masse, grosso modo, elle suit pour pas décrocher, en fait, pour rester encore dans la course. Parce que ce qu'on a perdu avec la technification du monde, c'est les moyens de notre autonomie. C'est-à-dire comment vivre en dehors de ce système-là, tout simplement, comment se nourrir, comment se déplacer, comment communiquer avec les autres, si on n'adopte pas les mêmes, si on n'est pas pris dans ces réseaux-là. Donc en fait, ce qu'on a perdu aussi, c'est la possibilité, je ne sais même pas si on l'a jamais eu d'ailleurs sur ces questions-là, de décider collectivement de telle ou telle orientation, de tel ou tel choix, de telle ou telle innovation. En fait, on ne décide jamais collectivement de ça. Donc en fait, les technomètres, là, les technocrates, ils mettent au point leur protocole, ils mettent au point, ils discutent entre eux, c'est quoi les meilleurs les réseaux de communication. Tiens, maintenant, c'est la 5G, il faut qu'on impose la 5G pour pouvoir justement réellement mettre au point la planète intelligente, pour que tous les objets puissent être connectés entre eux et connectés à Internet. Mais nous, on n'est jamais consultés sur ces questions-là, bien sûr. Et demain, quand ça sera installé, on va s'apercevoir qu'on n'a plus les moyens d'échapper à la connexion générale. Parce que, écoutez, si vous n'avez pas le smartphone pour payer votre ticket de tram ou votre ticket de bus, eh ben, ça ne marche pas. Vous ne prenez pas le bus, ou ainsi de suite. Donc, en fait, on perd du pouvoir parce qu'on perd de l'autonomie, mais aussi parce qu'on accepte, bon an mal an, d'adopter ces nouveaux modes de vie. Et leur pouvoir vient aussi en partie de notre résignation.
Il faudrait que massivement la population, que le centre de gravité de la population bascule, et que massivement les gens se soient instinctifs de dire « il faut vivre contre son temps ». Tant que les gens ne diront pas « il faut vivre contre son temps », tant que ça ne reviendra pas spontanément, eh ben ils perdront. Et on perd avec.
Dans les chansons créant ni message, ni consigne. Je veux pas refaire votre monde, je veux rêver le mien. Et quand je vous raconte mes révoltes, mes chagrins, ne vous croyez donc pas obligé d'adhérer. Dans mon parti, il n'y a que moi. C'est déjà le merdier. Ni gauche, ni centre, ni droite, je suis seul sur le ring. Avec ma gauche, ma droite, sans soigneur ni doping. Ni gauche, ni centre, ni droite, je suis seul sur le ring. Avec mon corps qui boite. La mort qui me fait signe. Croyez-moi, ce choix-là n'est pas des plus faciles. Les moutons de Panurge, je me traite d'inutile. Les miliciens rasés, de révolutionnaires. Les militants de choc, de rêveurs littéraires. Il n'y a rien qui irrite tant tous les troupeaux honnêtes que de ne pas pouvoir me coller d'étiquette. Ni gauche, ni centre, ni droite, ni blabla, ni béquille, ni rouge, ni blanc, ni noir, ni fusil, ni faucille, ni gauche, ni centre, ni droite, je suis seul sur le ring, avec mon corps qui boite, la mort qui me fait signe. L'engagement politique, pour moi, c'est comme la foi. Tu crois en Dieu, bon Dieu, ou bien tu n'y crois pas. Je crois parfois en l'homme, dans mes moments de fièvre, mais dedans mon terrier, mi-sanglier, mi-lièvre, loin des meutes de chiens, des cors et des clameurs, je suis gibier d'abord. Vous n'êtes que chasseur. Ni gauche, ni centre, ni droite, ni slogan, ni insigne, ni rouge, ni blanc, ni noir, ni complice, ni consigne, ni gauche, ni centre, ni droite, je suis seul sur le ring. Avec mon corps qui boite, la mort qui me faisait. Voilà 15 ans bientôt que je chante au secours, que je chante ma révolte, que je chante mon amour. Voilà 15 ans bientôt que d'hiver en automne, je me bats par instinct à côté de ma lionne, que je remets 100 fois sur le papier l'ouvrage, et que 100 fois, sans raison, je refais le voyage. Ni gauche, ni centre, ni droite, je suis seul sur le ring. Avec ma gauche, ma droite, sans soigneur ni doping. Ni gauche, ni centre, ni droite, je suis seul sur le ring. Avec mon cœur qui boite, ma vie qui me fait signe.
Dissonance avec le collectif pièces et main-d'œuvre.
Dans toute la mise en place de ce système technocratique, il y a quand même effectivement une grande partie de personnes qui vont être en fait simplement des intermédiaires, mais qui font parfaitement leur travail. Enfin, il y a quelque chose de très totalitaire quand même dans cette mise en place de ce système où la personne qui souhaite avoir quelqu'un en face va se retrouver face à une machine, mais pas directement, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va lui dire « Madame, c'est face à la machine que vous allez faire votre demande et résoudre votre problème ». Donc, on a bien affaire aussi quand même à des intermédiaires humains aujourd'hui, encore un peu humains peut-être. Et pourquoi ça résiste pas là, en fait, également ?
C'est là qu'on voit qu'on est encore des humains. À quoi voit-on qu'on est encore des humains ? C'est que cette injonction qui nous est faite de parler à la machine nous rend malades. Ou nous fait du mal, ou génère une violence sociale, ou un malaise personnel et généralisé, qui ne s'exprime pas exactement en ces termes. Mais il ne faut pas discuter plus de 5 minutes avec n'importe qui à la poste, dans la queue devant la machine, ou comme ça m'est arrivé récemment dans un cabinet de radiologie, où désormais il faut passer par une borne pour soi-même s'enregistrer, numériser son ordonnance et faire tout le travail de ce que faisaient avant les secrétaires, où ça râle, où ça se plaint et où ça exprime un malaise, pour le moins. Donc là, c'est les résidus d'humanité qui s'expriment. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes des humains qu'en ce que nous échangeons avec d'autres humains. Si on n'est pas élevé par des humains, par exemple, on ne devient pas un humain. Bon. Nous, on dit toujours, effectivement, les enfants sauvages qui ont été élevés par des loups ou des singes, ça ne donne pas des humains, hein, c'est difficile. Mais qu'est-ce que ça donne des enfants qui sont élevés par des écrans ? Des enfants qui sont élevés par des machines, ça donne pas non plus des humains. Ça y est, on commence à voir les instituteurs des toutes petites classes qui disent attention, les enfants de moins de 3 ans, ils ont des attitudes qui sont pas normales parce qu'ils sont trop exposés aux écrans. On voit bien que l'humanité a besoin d'humanité. Bon. Là, le fait d'être maintenant soumis en permanence à des procédures machiniques, ça affecte. Et ça se voit. Enfin, je veux dire, personne ne peut le nier. Bon. Alors, qu'est-ce que ça va devenir, ça ? Est-ce qu'on va se rendre malade, c'est-à-dire prendre sur soi et s'éteindre petit à petit avec ces maladies, enfin, ces souffrances-là, et cesser d'écraser ? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça va générer une révolte, une réaction, un refus ? Bon, nul ne peut le dire.
Il y a des collabos de la machine. C'est pas une forme de technotalitarisme, c'est le totalitarisme, c'est ça. Bon, on va à la poste. Oui, l'employé vous dit non, mais j'ai pas le droit de vous vendre un timbre. Je vais me faire engueuler par ma manager. Il faut que vous preniez le timbre à la borne. Vous allez à la SNCF, à la gare. Non, il faut aller à la borne pour acheter son ticket. Vous allez à la Sécu. L'employé à un moment donné, craque et dit « Non, mais je ne peux pas vous garder trop longtemps parce que sur mon écran, je suis supervisé. » Elle est derrière un écran d'ordinateur et il y a 3 couleurs sur son écran. Vert, orange et rouge. Vert, c'est le temps qu'elle a le droit de m'allouer. Orange, je commence à insister lourdement. Rouge, il faut qu'elle se débarrasse de moi. Et si elle ne le fait pas, elle se fait engueuler par sa supérieure. Et Pôle emploi, vous allez à Pôle emploi. On vous dit, mais vous, oui, il n'y a pas de problème, bien sûr, vous allez sur l'écran là-bas et vous rentrez votre code. Et donc, vous êtes sommé de vous plier aux procédures de la machine et au formulaire de la machine qui interdisent toutes questions qui ne sont pas prévues et admissibles par la machine. Il n'y a pas de autre question ? Non, c'est... quelle est votre situation, bon. Et c'est comme ça dans toutes les administrations maintenant. Donc, c'est là que se réalise le vœu de Saint-Simon, c'est-à-dire le remplacement du gouvernement des hommes par l'administration des choses. Nous sommes chosifiés et on nous parle comme à des choses. Et nous sommes censés nous plier aux autres choses. Bon, quand il disait « choses », il voulait dire « appareil », en fait. « Appareil, machine ». Bon. Donc, nous sommes des choses qui bougent. Qui fonctionnent, nous sommes des choses qui fonctionnent et nous sommes censés fonctionner de façon harmonieuse avec le reste de la machine, les machines qui ont été construites. Mais comme nous sommes encore dans une période de transition, il y a toute une catégorie d'humains qui sont spécialement stipendiés pour nous rabattre vers la machine. Bon, et pour nous expliquer d'un ton patient ou impatient ou irrité ou pitoyable que « Non, mais écoutez, je n'y peux rien, c'est pas moi qui décide. Moi, je ne suis que le mécanicien de la locomotive qui tire le train. Et il va où ton train? Et qu'est-ce qu'il y a dans ton train? On va juger qui, là, à la fin? Seulement les maîtres du train? Moi, je passe mon temps à être jugé par des gens. Mon attitude déplaît. Bon, ça ne m'offusque pas d'être jugé. Tout le monde passe des jugements tout le temps sur tout le monde. Bon, ces gens sont passibles de jugement. En tout cas, moi, je les juge. Et donc, je leur parle. Mais il n'y a pas de sentence. J'ai pas le pouvoir de...
Les cons sont là, les cons nous cernent, ceux des écoles et des casernes, des partis et des syndicats. Les cons sont là, tous les matins j'entends le monde crier sur le réseau des ondes. Son imbécile assassinat. Les cons sont là. Les serviteurs du dieu commerce, ceux qui vivent du sang que versent les clients qui ont des soldats. Les cons sont là. Les bétonneurs de la nature qui nous font des forêts futures à coups d'autoroute à trois voies. Les cons sont là. Les militants pour le salaire qui font des heures supplémentaires pour un bonheur qu'ils n'auront pas. Là.
Dissonance avec le collectif pièce et main d'œuvre.
Je crois que c'est Geneviève Fiorazzo qui disait si la technologie, enfin le progrès, la technologie fait peur, il n'y a qu'à parler de santé et d'amélioration de la santé, et tout le monde adhère. Et je sais, pour en avoir parlé à certaines personnes, que certaines personnes disent, mais c'est vrai, dans toute technologie, il y a du positif. Ça permet de soigner des maladies, enfin voilà quoi, ça... Les gens qui acceptent un implant dans le cerveau pour diminuer les tremblements de Parkinson... Ben voilà, je ne sais pas si la personne qui est très malade est pas contente. Enfin, c'est une question que je me pose.
Geneviève Fiorazzo a été ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de François Hollande, mais elle a surtout été adjointe au maire de Michel Destot, maire PS de Grenoble, du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, d'où il l'a débauché également, puisque à Grenoble, pour être élu, il faut au minimum être passé par
Et compagne ingénieur. De l'actuel directeur du CEA. Enfin,
bon. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, elle a dit, en fait, exactement, si vous rencontrez une opposition à l'encontre d'une technologie, faites intervenir les associations de malades. C'est ça qu'elle a dit. Comme ça, les gens vont être un peu... n'oseront pas... aller comme ça contrer des gens qui souffrent. Bon. Alors, l'exemple de l'implant contre Parkinson, il est très intéressant et on a eu l'occasion, nous, de le creuser depuis longtemps, puisque c'est à Grenoble qu'a été inventée cette technologie-là. Donc, au début, c'était des grosses électrodes qu'on mettait dans le cerveau des gens. Et puis, l'inventeur, enfin, il l'a un peu piqué à quelqu'un d'autre. Mais bon, bref, le professeur Ben Abid, qui maintenant est officiellement considéré comme l'inventeur de cette technique, à force de bidouillage... On met là, et puis tiens, je balance telle fréquence, etc. Il s'est aperçu que, je crois que c'est en balançant du 100 Hz, je suis pas sûre du chiffre, mais il me semble que c'était ça. Tiens, tout d'un coup, ça calmait les tremblements de Parkinsonien. C'était pas ça qu'il cherchait, mais il a trouvé ça. Bon, donc il a développé la technologie et il a posé ses électrodes sur beaucoup de malades. Et puis sont arrivées les nanotechnologies. Et il a tout de suite dit, moi, je veux aussi profiter notamment de la miniaturisation des composants. Et il a créé une clinique expérimentale du cerveau avec le commissariat à l'énergie atomique qui s'appelle Clinatech, où on teste sur des singes et sur des cobayes volontaires, des quelques patients volontaires, des implants tout petits, des nano-implants, et qu'on met dans le cerveau pour... alors, première application, c'était calmer le tremblement des parkinsoniens. Et puis, en fait... Très vite, il s'est rendu compte qu'il allait pouvoir intervenir sur des marchés plus vastes, et notamment des marchés qui sont plus du ressort de la psychologie, à savoir boulimie, anorexie, problème de comportement alimentaire. Il s'est aperçu aussi qu'en mettant les implants... ça, c'était un contre-coup de Parkinson, hein, en fait. En mettant les implants à certains endroits, il régulait en quelque sorte le comportement des personnes qui souffraient de ces... Et puis maintenant, il parle d'étendre aux addictions. Bon, alors, plusieurs choses à dire. Benabid, on l'a publiquement interpellé sur le fait qu'en tant que médecin, s'il était préoccupé par l'épidémie de maladie de Parkinson qu'on constate, alors son rôle était d'alerter les pouvoirs publics sur le problème des pesticides, puisqu'on sait que les pesticides sont à l'origine d'une épidémie de Parkinson, au point que la maladie de Parkinson est considérée comme maladie professionnelle maintenant pour les agriculteurs. Ça a été reconnu. Bon. Il nous a répondu publiquement, ce n'est pas vrai. Donc, moi, je considère depuis ce moment-là que ce n'est pas un médecin. Et en fait, la suite m'a donné raison. Ce type n'est pas un médecin, c'est un technologue qui se plaît à faire des performances techniques. Et on a eu depuis moult témoignages de gens qui ont eu affaire à lui, y compris comme patient, et qui corroborent ça. Bon. Et on a tout de suite dit, ce qu'il fait, c'est des outils pour les transhumanistes, parce qu'il permet de venir intervenir sur le cerveau et de venir modifier des choses qui vont être utiles pour les transhumanistes. Bon. Lui, il a toujours dit, je ne suis pas transhumaniste. Et puis, il s'est passé des choses dans sa clinique. Le directeur de la clinique, un type qui était un neurochirurgien qui s'appelle toujours François Berger, a démissionné en disant qu'il n'était pas content de la manière dont ça se passait et commence maintenant à lancer des alertes partout sur le transhumanisme. Première chose. Deuxième chose, Benabid reçoit un prix, 3 millions de dollars, remis dans la Silicon Valley par les patrons des GAFA qui récompensent les avancées de l'homme-machine en quelque sorte. Et les inventeuses d'ailleurs de la technologie qui permet de modifier le génome facilement aujourd'hui, CRISPR-Cas9, ont aussi eu ce prix-là. Bon, et il y va. Il apporte sa caution scientifique à ces gens qui sont ouvertement transhumanistes. Donc déjà, on commence à se dire, on n'avait peut-être pas tort de dire qu'il avait des tendances. Et puis, il finit par faire son coming out complètement dans une interview à Science et Avenir l'été, il y a un an et demi de ça, où il dit, eh ben finalement, j'ai évolué et je me dis... Maintenant, pourquoi est-ce qu'on refuserait d'augmenter le QI de quelqu'un qui n'est pas assez intelligent? Voilà. Et donc, ça y est, il explique ça. Et là-dessus, on rencontre, en allant un peu perturber, ou en tout cas essayer de perturber une conférence que donnait Benabid dans un colloque, on rencontre une malade de Parkinson, assez atteinte quand même, hein, quand on la voit, waouh, elle a des bras droits qui partent dans tous les sens et tout, elle a un corps qui vit indépendamment d'elle, quoi. Hein, c'est impressionnant à voir. Et elle nous chope à la sortie et elle nous explique en quoi elle est horrifiée par les méthodes de Benabid et par la manière dont il considère les malades et pourquoi jamais de la vie elle n'acceptera un tel traitement. Elle dit, les traitements de Benabid consistent à faire de nous des machines. Et par ailleurs, nie complètement mon vécu de malade. Benabid, il te prend, il te dit, t'as des tremblements, t'as un problème avec ton Parkinson, je vais te mettre un implant. Quand il sera sur on, ça marche comme ça, hein, quand il sera sur on, tu seras régulé. Voilà. Si tu mets sur off, ça redémarre. Mais bon, quand il est sur on, tu seras régulé. Et c'est tout. Et donc, tu seras pris en main par la machine, bon, qui te permettra d'avancer et d'avoir des gestes normaux. Et elle explique qu'elle, comme malade, elle a réinvesti son corps autrement. Elle est obligée. Et elle se vit autrement, elle vit son rapport au monde, à l'espace autour autrement. Et elle s'est mise à la peinture, et quand elle peint, elle ne tremble plus. Ça, il paraît que c'est assez connu. C'est assez connu, c'est un phénomène. Et donc, sa vie de malade, c'est pas marrant d'être malade, mais pour rien au monde, elle troquerait son vécu de malade contre une promesse de calmement, de tremblement, par un implant machinique. Et c'est, il faut entendre ces malades-là aussi. C'est intéressant de ce qu'ils disent, quoi.
Voilà. Derrière cette question des malades, enfin, de l'utilisation des malades, bon, en fait, c'est un chantage au bon sentiment. Hein, vous êtes des méchants si vous refusez. Mais ça va assez loin, parce que ça marche aussi pour les gays. Pour les gays ou pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ah, vous êtes vraiment des cœurs de pierre si vous refusez que les homosexuels, les lesbiennes puissent avoir des enfants sans hommes ou sans femmes, ou que les couples stériles puissent pas avoir. Vous êtes vraiment cruel, vous stigmatisez, etc., etc. Et donc, on se sert de ces mouvements et de ces associations comme chevaux de Troie. Et en fait, c'est les idiots utiles du transhumanisme, point. Et ils sont pas contents quand on leur dit, mais on leur dira quand même.
Je suis fille de Toto, qui milite à Montreuil. Je suis fille de Zadiste, née parmi les chevreuils. Je suis fille d'Antifa, grandie au syndicat. Et fille de féministe qui ne se mariera pas. Fille des perquisitions et des assignations. Enfant des gardes à vue et de la répression. J'ai une fille chargée, bien qu'on me l'ait cachée. C'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté. La, 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 la. Passer toutes mes vacances à Notre-Dame-des-Landes. J'ai fait 60 AG, tout au CICB. Et malheureusement, ça n'a jamais rien donné. Et mes doudous c'était des tractés, des kéfiers. J'ai appris la grammaire, déjà féminisée. Posé sur un faux kiosque, mes rédactions scolaires. Même que parfois je rendais un tract contre la guerre.
Dissonance avec le collectif Pièces et main d'œuvre.
Si on pense que ça peut être évitable, hein, puisque le fait de penser que c'est inévitable, c'est comme si c'était acquis et on s'adapte. Comment on peut faire pour résister, pour s'opposer, pour faire que ça n'arrive pas?
Bon, nous, on prétend pas avoir de solution magique, ni de programme tout fait, clé en main, ni de tuto en ligne sur Internet qui suffirait de suivre pour y arriver. Hein. Mais on réfléchit évidemment à ces questions-là. Il y a plusieurs pistes qui nous ont semblé importantes. La première, c'était, en tirant les conséquences de ce qu'on disait tout à l'heure, comment faire en sorte d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de ce qui arrive. Parce qu'évidemment, on ne peut pas lutter contre un phénomène si on n'en a pas la conscience et si on n'en a pas une bonne connaissance. C'est pour ça qu'on insiste toujours sur le fait qu'il faut absolument que chacun pour soi, soi-même, et collectivement aussi, reprenne en main sa capacité à réfléchir par soi-même, à pas tout gober ce qui arrive comme étant inéluctable, et notamment sur cette question du progrès, où on est quand même beaucoup formaté. Donc, il est important d'abord de réapprendre à réfléchir par soi-même, ça veut dire vraiment sérieusement lire, écrire, enquêter, se faire sa propre idée et éventuellement ensuite la partager avec les autres. Bon, ça paraît bête, mais si on ne fait pas ça, on n'a pas la première pierre du mur. Et pour ça, il faut qu'on ait des cerveaux encore en état de marche. Il nous semble que nos cerveaux sont beaucoup agressés, sont probablement les premières victimes de la société numérique. Et là aussi, il y a une priorité évidente sur la préservation des cerveaux. Ça veut dire quoi ? Clairement, hein, notamment auprès des tout jeunes, des plus jeunes, les protéger un maximum des écrans et de l'invasion de ce qui les empêche de se faire un cerveau et un fort intérieur aussi qui puisse être protégé. Bon, première chose. La deuxième chose qu'on se dit aussi, c'est tout ça ne marche, encore une fois, que parce qu'on acquiesce. Et comment est-ce qu'on acquiesce ? Principalement en consommant. On n'a pas beaucoup de pouvoir, on n'a aucun pouvoir avec notre... Enfin, pour ceux qui vont voter, en tout cas, la carte d'électeur ne donne pas beaucoup de pouvoir. Il y a un truc, par contre, qui marche assez bien, c'est le pouvoir du portefeuille. Donc, on se disait, oui, ça serait intéressant de lancer un mouvement vraiment vaste et profond de désertion de ce système-là, de boycott et de grève des achats, notamment. Et alors, ça a plein d'avantages, hein. Je pense aux gilets jaunes, par exemple, mais qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Ben, on gagne du pouvoir de vivre en n'achetant pas, mais on fait beaucoup d'économies, quoi. Hein. Donc, bon, et puis, on pèse. On pèse sur le système si on est nombreux à dire on marche plus, on n'achète plus, on pèse. Bon, et je ne dis pas que c'est ce qui va empêcher le transhumanisme d'advenir. Mais c'est ces choses-là qui permettent de prendre conscience et de réfléchir et de se dire en quoi je suis lié à ce système qui m'entraîne inéluctablement dans cette direction-là et en quoi je peux couper ce lien.
Si tu veux des stratégies politiques pour en finir avec l'ordre existant, l'ordre établi du monde, il n'en a jamais manqué. Au début du XXe siècle... À la fin du 19e, début du 20e siècle, Georges Sorel, les anarchistes, par exemple, ont propagé comme un mythe conscient, l'idée de la grève générale. La grève générale des travailleurs en disant, mais en 8 jours, on met le système à genoux. Et même si on ne va pas le faire, que l'idée existe comme mythe, c'est un mythe mobilisateur qui permet de réunir des forces, de fédérer des gens, de les unir et bon... Et finalement, ils ont perdu. Et la classe ouvrière a quasiment disparu des pays occidentaux, remplacée par des machines ou par des Chinois. Bon. Et finalement, ce qu'on vient de dire là, ce n'est jamais que ce que Étienne de la Boétie nous disait il y a des siècles. Refusez d'obéir et vous voilà libre. Par quel mystère se fait-il quand 6 ou 7 siècles, enfin depuis l'époque de Montaigne et de la Boétie, cette idée n'ait pas été partagée par une majorité du peuple au même moment. Bon. Et par quel miracle, ce qui n'a pas été possible pendant 7 siècles, ou même avant, le deviendrait maintenant. Mais en fait, je me dis pourquoi ce qui n'a jamais abouti, ce qui n'a jamais marché dans des époques où il y avait encore les bases d'une vie autonome, où il y avait encore des paysans à la terre, où il y avait encore une classe ouvrière, où il y avait encore des intellectuels qui étaient du côté du peuple, des étudiants qui étaient sur les barricades, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché dans des temps meilleurs et avec des gens qui valaient bien mieux que moi, qui avaient une autre valeur intellectuelle et une autre valeur morale et une autre valeur humaine que moi ? Bon, comment ça se fait ? Pourquoi ça serait maintenant possible ? Bon, alors peut-être parce que, oui, à force de le dire, on arrive à la lutte finale. Il n'y a plus grand-chose à transformer. Le monde est à peu près transformé, c'est-à-dire à peu près détruit. Donc on pourrait imaginer que à la dernière minute, il y a une espèce d'émeute planétaire. Bon, OK, ce ne sera pas beau à voir. Et par ailleurs, la question que moi je me pose depuis un an, enfin ça fait un an que je l'ai formulée, c'est « mais s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il reste à sauver exactement ? Vous pouvez me dire ce qu'il reste à sauver ?»
Merci PMO et d'être venu et merci pour votre analyse de la situation.
Vous trouverez sur notre page internet un lien vous permettant de réécouter cette émission, mais aussi divers liens vous donnant de nombreux compléments d'informations sur pièces et main-d'œuvre. Cette émission sera rediffusée sur les ondes de Radio Centrafrique mercredi 25 septembre à 8h et samedi 28 septembre à 16h. Vous pouvez aussi bien entendu la télécharger depuis notre page internet pour l'écouter à votre guise.
Salut
et fraternité.